Dans quel monde on vit fête ses 10 ans et si pour célébrer cet anniversaire, vous vous abonnez à notre podcast. Déjà, merci pour ce chouette cadeau.
Souvent, les gens ont commencé à raconter, ont commencé à parler et devant l'inaudibilité de ce qu'ils avaient à dire, ils se sont tus.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude. Mémoire et histoire entrent en résonance avec les propos de nos deux invités, Beata Oumoubié-Imérès et Valérie Zenati. C'est parti.
La première.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Pascal Claude.
Qui sème la misère récolte la colère. La colère affichée sur des tracteurs, la colère scandée jusqu'à en perdre la voix. La colère des agricultrices et des agriculteurs. Ces derniers jours, elle a occupé presque tout le champ médiatique. Les voix de ces femmes et de ces hommes, leurs témoignages, leur colère mais aussi leur désespoir, sentiment d'abandon, leur récit de vie énoncé depuis leur ferme, pas loin de leurs bêtes. Mais dans quelques mois, qui s'en souviendra quand collectivement nous serons occupés à tenter de saisir une autre actualité, elles et eux, peut-être toujours empêtrés dans leur rude réalité. Je pose la question alors que d'autres images se sont agglutinées dans ma tête cette semaine. En vrac, ma mémoire m'a ramené à la crise du lait en 2009, à ces tracteurs qui déversaient leur or blanc dans un champ hasciné, des millions de litres déversés pour sensibiliser et le souvenir de gouttes de lait mêlées à des larmes humaines. Plus récemment, c'est via la fiction que j'ai ruminé aux côtés des vaches, celle de l'enfance de l'autrice Marion Fayolle, l'histoire de gens qui dédient leur vie à la ferme. Enfin, un mot qui tout à coup est remonté à la surface et qui a presque pour moi une dimension mythologique. Ce mot, c'est colostrum. Mot qui m'a ébloui en pleine nuit. J'avais même pas 10 ans et je venais d'assister pour la première fois à un vélage. Juste avant, j'avais croisé le regard de ce veau qui se demandait où il était tombé. Bientôt, il allait goûter aux premières gorgées du lait de sa mère, le colostrum. C'est surprenant quand même parfois la mémoire. Alors oui, de ces jours de colère, qui s'en souviendra ? Et en attendant, vous, à quoi, quel souvenir est-ce qu'il vous renvoie ?
Dans quel monde on vit ?
Et cette question, nous allons l'adresser à nos invités, des écrivaines qui interrogent l'histoire, leur mémoire et la mémoire collective. Je vous les présente, Beata Oumoubié-Imérès. Vous êtes née à Butare, au Rwanda, en 1979. Vous avez survécu au génocide des Tutsis en 1994. Vous vivez aujourd'hui en France. Et si vous êtes toujours en vie, c'est notamment grâce à un convoi humanitaire. Vous le racontez dans Le Convoi, un récit précis et engagé d'une grande nécessité qui nous invite à écouter d'autres voix. Valérie Zenati, vous êtes née, vous, à Nice, en 1970. Vous avez vécu quelques années en Israël, vous vivez aujourd'hui à Paris, vous êtes écrivaine et traductrice, traductrice notamment de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld, décédé en 2018 et en ce début d'année 2024, vous signez Qui vive, un roman qui sonde nos chemins de vie bousculés notamment par les fracas de l'actualité. Nous allons bien sûr nous y arrêter, mais d'abord cette question déployée en ouverture, cette mobilisation du monde agricole, ça vous renvoie à quoi ? Ça ouvre votre mémoire à quel souvenir ? À quelle colère aussi peut-être. Valérie Zenati d'abord.
Je ne sais pas si je relirai cet événement précisément à une mémoire. Je pourrais dire peut-être que lorsque j'étais journaliste, je me souviens dans les années 90 des négociations sur la PAC, donc la politique agricole commune. Je percevais déjà cet écart entre des textes, des lois qui sont nécessaires et des réalités de vie. Qui se sentent submergés par ces décisions. Voilà, ça me rappelle, si je cherche dans ma mémoire, ça me rappelle cet écart-là que je percevais déjà il y a 30 ans, comme s'il y avait un langage commun qui était impossible à trouver.
Beata Oumoubié-Imérès, que vous dites-vous, vous, en voyant ces images de colère, ça vous renvoie à quel souvenir ?
Pas un souvenir précis. Votre introduction, vous avez parlé de vélage et de moi ça m'a renvoyé parce que le Rwanda est un pays de vaches et de lait, enfin c'est très important dans la culture et à la première fois où on m'a montré comment traire une vache et en fait il se fait que c'était dans l'école sociale de Butare où ensuite j'allais survivre en partie, donc évidemment c'est deux mémoires comme ça. Et sinon, au quotidien, la réalité des agriculteurs, moi je fais partie d'une AMAP, d'une association de maintien de l'agriculture paysanne, je ne sais pas si vous avez la même chose en Belgique, donc à chaque fois que je vais chercher mon panier, ben, je parle concrètement avec les agriculteurs qui ont fait pousser les légumes que je vais manger, donc c'est un autre rapport que j'ai choisi d'avoir avec mon alimentation, et c'est toutes les semaines, le mercredi soir.
Beata Omoubieyi-Mérès et Valérie Zenati, vous êtes nos invités cette semaine, et bonjour Blandine Rinkel.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, membre du groupe Catastrophe. Je signale d'ailleurs que votre roman « Vers la violence » vient de sortir en format poche. Et si vous êtes avec nous, c'est parce que vous avez une lettre à partager avec nous. Elle est pour qui cette fois-ci ?
Pour la fiction.
En toutes lettres, c'est dans même pas une micro-demi-heure. Et là, il est temps de mieux faire connaissance avec nos invités en découvrant leur selfie sonore. Je vous rappelle le principe, elles ont choisi un son qui pourrait être leur autoportrait ou en tout cas évoquer un morceau de leur vie. Nous écoutons d'abord le vôtre, Valérie Zenati. Très très beau, vous vouliez écouter le son du violon de l'artiste Eric Slabiak. Je vous laisse commenter.
Oui, tout à fait. Alors je ne sais pas si on peut parler d'autoportrait, et la question de l'autoportrait sonore est très complexe. Je l'ai trouvée vertigineuse. Et puis je me suis dit que ce son-là, c'est un son qui m'accompagne intérieurement. Eric Slabiak est un ami, mais que j'ai admiré en tant que chanteur et violoniste bien avant de le connaître. Et il y a dans sa musique, voilà, vous venez de dire c'est très beau, une sensibilité qui me semble être présente en moi et faire partie de ces choses invisibles qui sont là, beaucoup plus que ce qui semble visible parfois. C'est l'endroit où toutes les émotions peuvent se rejoindre.
La joie. Réveil de la vie intérieure en quelque sorte.
Exactement. Ouais. Exactement, j'aime beaucoup cette définition. Vous le dites encore mieux que moi.
Allez, vous, Beata Omoubieyi-Mérès, voici le son que vous avez choisi. Vous vouliez entendre un son lié à la radio. Pourquoi ?
Parce que la radio a toujours été là. Depuis l'enfance, on n'avait pas de télévision et j'avais une maman qui écoutait beaucoup les infos, mais
sans cesse manifestement.
C'est vraiment oui, et ça a été en plus crucial en 94 pendant le génocide. On avait un petit transistor comme ça qu'on écoutait vraiment pas fort pour savoir ce qui se passait dehors, en dehors de la cachette. Mais depuis l'enfance, c'était le centre du quotidien, quoi, la radio. Et depuis, encore et toujours. Donc, j'en parle à la radio, mais c'est une déclaration d'amour à la radio. Et c'est la première chose que je fais le matin, c'est d'écouter la radio.
Et en 1994, ça vous a sauvé, en fait, d'avoir écouté l'actualité ?
En 94, oui. Ça me fait plaisir de redire 90 et 70, parce que j'ai toute ma scolarité dans une école belge au Rwanda. Oui, parce que, justement, j'avais... quelques notions des enjeux géopolitiques, de ce qui se passait, et donc de pouvoir dire aux tueurs qui voulaient
vous tuer.
Nous découper, mais je suis française, et si vous me tuez, Mitterrand vous en voudra. Enfin, c'est parce que je savais que pour eux, la France était un pays allié, et que Mitterrand, comme ils avaient pu le dire, était un véritable ami, quoi.
Voilà pour vos selfies sonores. Et nous enchaînons avec quelques échos de l'actualité. Concert de klaxons et de sirènes pour accompagner les défilés de tracteurs. Jeudi, agriculteurs et agricultrices étaient dans le quartier européen à Bruxelles.
On va rester ici, on va montrer qu'on est là, faire du bruit et rester calme et montrer quand même une bonne image à l'agriculture malgré tout.
Depuis plusieurs jours, elles et ils se mobilisent pour obtenir des simplifications administratives, exiger un juste prix pour les produits vendus et dénoncer des règles européennes qualifiées d'incompréhensibles, notamment sur sur le plan environnemental.
Ce qui est inquiétant pour la suite, c'est que du coup, sur le dos finalement de la colère des agriculteurs, vous avez tout le monde politique, et pas seulement en France, dans différents pays européens, qui finalement utilisent cette colère des agriculteurs pour effectivement faire de l'écolo-bashing.
Mais en attendant, voilà un résumé des forces en présence dans le monde agricole.
La moyenne d'âge des agriculteurs en Wallonie, c'est pratiquement de 60 ans. C'est quand même très interpellant. N'importe quelle autre profession, si on annonçait un chiffre comme ça, on se poserait d'énormes questions sur l'avenir de ce métier. Donc c'est tout à fait légitime de se poser les mêmes en agriculture.
L'agriculture, petit, on en rêve. Adulte, on en crève. Slogan que nous pouvions lire cette semaine sur des tracteurs. Et pendant ce temps, il ne faudrait pas oublier la situation à Gaza. Plusieurs pays ont décidé d'arrêter de financer l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Israël accuse certains employés de cette agence d'implication avec le Hamas.
Le débat actuel ne fait que détourner l'attention de ce qui se passe réellement chaque jour, chaque heure, chaque minute à Gaza. Il s'agit d'une distraction par rapport à près de 27 000 morts, dont 70% sont des femmes et des enfants.
Out of which 70% are women and children.
Voilà pour ces quelques sonorités de l'actualité. Et vous, de votre côté, quelle est l'info que vous avez épinglée, Beata Oumoubieï-Mérez d'abord?
Mais moi, je ne peux pas ne pas me sentir bouleversée par ce qui se passe à Gaza. Alors, je tiens vraiment à être très claire que le massacre commis par le Hamas le 7 octobre m'a horrifiée. Voilà, j'ai tout de suite envoyé des messages aux amis en Israël en disant « Est-ce que vous êtes sains et saufs ?» Mais ensuite, ce qui se passe depuis 3 mois... Enfin, chaque jour, je me réveille en étant tétanisée parce que à la fois ces enfants et ces femmes qui sont bombardées, qui meurent, et en même temps la prise de conscience que c'est pas ça qui va faire en sorte que les otages qui sont encore aux mains du Hamas soient libérés. Donc cette situation m'attriste énormément.
Blandine.
L'impression qu'on va pas en sortir et ça m'attriste énormément.
Blandine.
Moi j'ai retenu l'Assemblée nationale qui vote en première lecture l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Parce qu'on cherche quand même des petits endroits de peut-être de stabilité ou de réjouissance. Et quand même 493 députés pour, seulement 30 contre. C'était un motif de sourire.
Ça se passe en France. Valérie Zenati.
Un rapport qui m'a frappée et qui concerne le temps passé par les enfants devant les écrans. Les enfants de moins de 2 ans passent déjà près d'une heure devant les écrans. Et donc évidemment avec toutes les conséquences qu'on imagine sur le développement, mais surtout sur le rapport au monde. Et donc je crois que ce sujet-là, de la façon dont on fait face à la vie, non pas par nos perceptions réelles et notre intellect, mais par le biais d'écran, mérite une réflexion fondamentale.
Eh bien voilà pour vos réflexions à propos de l'actualité. Maintenant, la survie pendant le génocide des Tutsis au Rwanda et la vie possible après, c'est avec vous Beata Oumoubieï-Mérès.
Atindabizi komunyicha ndabibona ko ntamakiriro Atindabizi komunyicha ndabibona ko ntamakiriro.
J'ai eu la vie sauve le 18 juin 1994, quelques semaines avant la fin du génocide contre les Tutsis. J'ai pu fuir mon pays grâce à un convoi de l'organisation humanitaire suisse Terre des Hommes. J'avais alors 15 ans. L'opération de sauvetage était officiellement réservée à des enfants de moins de 12 ans. Mais ma mère et moi avons pu en faire partie, cachés au fond d'un camion. Ce sont les premiers mots de votre livre Le Convoi, Beata Oumoubieï-Mérès. Un texte qui remue et qui raconte l'horreur, la peur vécue en 1994. Mais aussi votre enquête ces 15 dernières années pour mettre la main sur des images, sur des photos de vous, de votre mère et de vos compagnons de fuite le 18 juin 1994. On vous aurait vu à la télé traverser la frontière entre le Rwanda et le Burundi. Ça a été le point de départ de vos recherches, nous allons en parler. Et là, c'est quelques mesures d'une composition de l'artiste rwandais Jean de Dieu Rwamiyare que nous avons écouté et que vous citez d'ailleurs dans votre livre, dans ses chansons. Il rend hommage hommage aux rescapés et aux disparus du génocide. Vous êtes né à Boutaré, d'une mère rwandaise et d'un père polonais. C'est votre mère qui vous a élevé. Vous êtes l'autrice de plusieurs livres déjà. Et j'aimerais commencer par une scène que vous évoquez au début de votre récit. Une éditrice vous dit un jour que ça ne va pas être simple de défendre votre travail parce qu'en fait, je cite, « le créneau est déjà pris ». Autrement dit, il y a déjà une écrivaine rwandaise dans l'espace littéraire français. Qu'est-ce que cette scène révèle ?
Des préjugés, l'impression quelque part hyper réductrice de ce que notre parole venant d'Afrique subsaharienne peut porter. Et le besoin de prouver au monde littéraire germano-pratin qu'il y a autant d'histoires qui viennent de notre côté du monde que de livres à publier.
Pourquoi dites-vous qu'une fois arrivé en France, vous avez dû apprendre à vous taire ?
C'est une réalité qui a été celle de beaucoup de survivants d'autres génocides également. Et moi, je l'ai découvert plus tard, notamment au sujet du génocide des Juifs. Il y a ce lieu commun qui consiste à dire c'est indicible, c'est innommable. Et en réalité, effectivement, c'est difficile à dire. Et c'est, par exemple, très difficile à dire à ses propres enfants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de silence dans les familles. Mais pour ce qui est de raconter à la société, pour ce qui est de témoigner, finalement, la plupart du temps, les gens veulent raconter et dire ce qui s'est passé.
Il y a un manque d'oreilles.
Pour moi, je pose la question de est-ce que ce n'est pas que c'est inentendable, c'est-à-dire comme c'est inimaginable d'ailleurs pour les gens. Souvent, les gens ont commencé à raconter, ont commencé à parler et devant l'inaudibilité de ce qu'ils avaient à dire, ils se sont tus. Et donc, quelque part, pour ne pas gêner les vivants... Et pour les protéger, vraiment, c'est quelque chose de très paradoxal. C'est-à-dire, il s'agit de protéger les autres de ce qu'on a vécu. Eh bien, on se tait.
Qu'est-ce que vous vous êtes empêché de dire, par exemple, Beata Omoubi-Imerès ?
Je dirais que... il y a ce qui est dans le livre, maintenant, dans le chapitre que j'ai appelé...
témoignage.
Le temps du témoignage. Et il y a aussi la réalité de ce que c'est que dans des scènes du quotidien, quand une sorte de béance s'ouvre parce qu'un souvenir arrive, parce qu'un ce qui est la spécificité du traumatisme aussi, qui fait intrusion comme ça dans nos vies, dans nos quotidiens, de ne pas le partager aux autres parce que tout d'un coup ça... ça serait une sorte de violence comme ça aussi pour elle et pour eux. C'est des moments de solitude, finalement. Par exemple, juste au début de cette conversation, là, vous avez diffusé un extrait d'une chanson de Jean de Dieu qu'on appelle Bonhomme, ce chanteur rescapé. Et il n'y a que moi qui comprenais ici dans le studio ce qu'il disait. Et en fait, ces chansons sont extrêmement dures, extrêmement violentes, parce que là, c'était la parole de quelqu'un qui était en train de dire « Je sais que vous n'allez pas m'épargner ». Et ça, c'est un moment où moi, à chaque fois que j'entends ces chansons, d'ailleurs, les rescapés, on est vraiment en larmes. On a besoin d'entendre ça, et en même temps, c'est dur. Et en même temps, comme il y a cette langue-là, mais vous n'avez pas partagé le sens de ces mots. C'est ça, parfois, qu'il faut garder pour soi.
On sent malgré tout l'émotion dans la voix de cet artiste, même si on ne comprend pas ce qu'il dit.
Oui. Et on ne sent pas la violence des scènes qu'il décrit, qui sont toujours là, de mise à mort.
Vous vous êtes beaucoup nourri ces dernières années des écrits, des travaux à propos de la Shoah. Ça vous a aidé ?
Oui, beaucoup. Et je suis, je disais tout à l'heure à Valérie Zenati que j'étais... très, très heureuse et très bouleversée de la rencontrer aussi parce qu'elle est la traductrice de Aaron Appelfeld qui a été un auteur important pour moi.
Que vous citez d'ailleurs dans votre livre.
Oui, parce que Je suis très claire sur le fait que ce sont des histoires différentes, que j'ai pris conscience assez tôt de l'unicité de la Shoah, que je sais que le génocide des Tziganes, le génocide des Arméniens ou celui commis par les Khmers Rouges au Cambodge, c'est chaque fois des histoires différentes, mais il y a une communauté d'expériences des survivants. Et quand moi, je me suis retrouvée en France à l'âge de 15 ans et qu'on m'a dit « tu as survécu à un génocide », parce qu'au moment où on le vit, on ne sait pas que c'est ça. En tout cas, moi, je n'avais pas conscience que c'était ça. Eh bien, les mots des autres m'ont permis, quelque part, de me sentir moins seule. Voilà. Mmh. Et donc, des expériences de gens qui ont survécu et qui vont parler de cette solitude, ou même des scènes concrètes. Hein. Moi, je pense à une scène que décrit Aaron Appelfeld dans... Je crois qu'il est caché dans un champ de maïs et il voit des paysans qui courent et qui tuent un enfant. Ben ça, c'est vraiment une scène comme on a pu en avoir au Rwanda. Et de se dire que tellement de décennies d'écart, il y a cette même expérience qui est celle de garder en mémoire vive ces moments-là, ou des moments de joie aussi, de souvenirs d'avant. Ça m'a aidé.
Vous dites que lors du génocide, vous avez décidé de vivre. Il s'agissait d'une décision ?
À 15 ans, on peut penser ça. Oui. Il s'est agi de ne pas se laisser détruire intérieurement par la peur, par le côté inéluctable de l'impression aussi que le monde entier laissait faire et qu'il y avait aussi, parce que quand les étrangers ont été évacués par les militaires belges ou français, et que c'était comme une façon de laisser ce huis clos possible.
La plupart des gens évitent de croiser notre regard. Ils doivent se douter que nous allons être tués. Ils ont peur que nous leur demandions de l'aide. Quand je raconte ce moment, je sens une furieuse envie de pleurer monter en moi, mélange de ressentiment et de stupeur qui ne m'a jamais quitté. Mais je les chasse, car je ne veux pas me laisser manger par l'amertume. Qu'aurais-je fait à leur place ? Sans doute la même chose. Qu'est-ce qui vous amène à penser que vous auriez, vous aussi, détourné le regard ?
Mais regardez ce qui se passe depuis, en fait.
Dans le monde ?
Oui. Ce que je décris dans cette scène-là, c'est l'évacuation des étrangers de Boutaré. Nous, on habitait dans un appartement qui donnait pratiquement sur la grande rue. Donc, c'était vraiment un alignement de voitures de tous les expatriés, dont beaucoup étaient des camarades de classe, parce que j'étais scolarisée à l'école internationale avant, avec leurs parents. Enfin, c'était une petite ville, Boutaré, donc on connaissait tout le monde. Et donc, on voit ces gens qui sont avec les militaires étrangers qui sont venus pour les évacuer. Et ce qui se passe encore, toujours. Et d'ailleurs, dans les médias, on va surtout vous parler de est-ce que les Français, les Belges ont bien été évacués. Et on voit qu'ils partent et quelque part, ils savent ou on se doute qu'ensuite, une fois qu'ils seront partis, nous serons tués. Donc c'est ce moment d'abandon qui est là concret parce que les gens, ils sont en face de nous et ils baissent les yeux pour ne pas croiser notre regard. Mais en même temps, ils ont peur aussi. Ils se disent il faut qu'on quitte ce pays parce que dans les autres villes, on a déjà commencé à tuer. Et moi, j'essaie justement de pas à la fois me laisser détruire par l'amertume, par la colère, par cette impression d'abandon. Et j'essaie d'aller même jusque plus loin en me disant, mais qu'est-ce que j'aurais fait à leur place si moi aussi j'avais été là avec mes enfants? Est-ce que j'aurais essayé de prendre un enfant, d'amis, de le cacher dans la voiture? Qu'est-ce que j'aurais fait?
Sans doute
c'est
la même
chose.
C'est une
question qu'on devrait se poser.
Écrivez-vous. Mmh.
Mais c'est à l'échelle d'individus. Ensuite, il y a ce qui se passe à l'échelle d'État, à l'échelle de décisions politiques, puisque ce génocide avait été annoncé, puisque les différentes ambassades avaient alerté, puisqu'on savait qu'il y avait des caches d'armes, etc. Et qu'à un moment donné, il y a eu aussi la décision à la fois de retirer les casques bleus belges, et ça c'est quelque chose qui, je pense, est encore vif dans l'histoire de la Belgique, et puis de retirer tous les casques bleus et de dire, on s'en va, quoi.
Vous parlez d'abandon de la communauté internationale.
Bien sûr.
Il est question aussi d'abandon médiatique. Ça m'a frappé parce que vous racontez qu'il y avait très peu de journalistes au Rwanda, alors qu'au même moment, il y en avait 2500 en Afrique du Sud pour couvrir les premières élections libres. Qu'est-ce que ça raconte, ça ?
Mais ça raconte que le monde avait envie de voir quelque chose de positif, de se dire, tiens, l'Afrique du Sud a mis fin à l'apartheid et on a envie de participer à cette joie-là, ce qui permet aussi de faire oublier qu'on a peut-être collaboré avec l'État d'apartheid d'Afrique du Sud. Mais j'ai envie de dire, et encore, heureusement qu'il y avait des journalistes en Afrique du Sud, mais... Combien en avait-il, et ça j'ai pas le chiffre, qui sont partis dès le mois de juin couvrir la Coupe du Monde de football aux États-Unis. Tellement plus. Donc c'est aussi quels sont les choix que l'on fait quand il s'agit de raconter ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a encore un tas d'endroits dont on ne parle pas. Ceux qui sont restés, eh bien, j'en parle pour certains, puisque c'était par exemple l'équipe de la BBC, enfin, qui n'est venue finalement que 2 semaines, mais eux ont pu documenter des choses.
Alors venons-en plus précisément à votre enquête, à la recherche des photos de vous et de votre mère lorsque vous quittez le Rwanda en juin 1994. Vous êtes entré en contact avec l'équipe de la BBC qui était présente sur place, ou encore avec les personnes de l'organisation humanitaire qui vous ont permis de passer la frontière. Ça devient une véritable obsession pour vous et vous vous demandez si, et je vous cite, votre démarche n'est pas une lubie individualiste d'écrivaine trop occidentalisée. Pourquoi est-ce que ces traces, ces images manquantes sont si importantes, Beata Umubiei-Meres ?
Je pense que pour les plus jeunes, on ne se rend pas compte que aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un téléphone dans la poche avec un appareil photo, mais à l'époque, les Rwandaises et les Rwandais, très peu de gens avaient un appareil photo individuel. Et finalement, la quasi-totalité des images qui ont été prises du génocide contre les Tutsis au Rwanda l'ont été par des Occidentaux et aussi pour des Occidentaux. Donc avec un regard très...
Par et pour
documenter, pour informer. Et donc il y a l'idée que cette image, il y a peu d'images et ces images-là sur lesquelles... on nous a dit qu'on figurait, eh bien, il est essentiel pour moi de les trouver parce qu'il y en a peu. Et c'est pour documenter ce moment-là, c'est pour en avoir une trace. Et il y a si peu d'images, justement, que si on sait qu'elle existe quelque part, en tout cas, moi, il était essentiel que je la retrouve. Et c'est un moment de bascule. Je ne sais pas si m'aide à vivre... Je pense que ce qui aide à vivre, c'est d'avoir eu des tuteurs de résilience, c'est d'avoir eu beaucoup, beaucoup de chance avec des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, une thérapie, enfin tout ce qui fait qu'on vit ensuite après. Hein. J'ai envie de voir la tête que j'avais, de nous voir vraiment à ce moment, qui est un moment de bascule. C'est vraiment le moment où on traverse la frontière. On est dans une sorte de no man's land entre la frontière du Rwanda et la frontière du Burundi. Et la mort est derrière nous, mais vraiment à 2 mètres, quoi. Les tueurs sont juste derrière nous. C'est le moment où on devient des survivantes et des survivants, qui est désormais notre identité, dont on ne pourra jamais se défaire, avec laquelle il faut vivre et cohabiter. Et retrouver les photos de ce moment-là, ça donne un sens, je trouve, pour la plupart d'entre nous, et en tout cas pour moi.
Ces images nous appartiennent, il est grand temps qu'elles nous reviennent, écrivez-vous.
Oui, parce que quand je me suis mise en quête de ces images, et c'est ce que je raconte dans le livre, ça a été un vrai parcours de combattant. Enfin. Et finalement, je me rends compte que les traces de notre histoire, ce qui devrait être nos archives personnelles, appartiennent encore à des Occidentaux, sont dans des cartons, dans des archives qui nous sont inaccessibles. Et ça pose quand même une question aussi de quelque part qui a écrit notre mémoire et enfin, en tout cas cette histoire, pour qui et à qui elle appartient aujourd'hui. Et c'est des enjeux qui, certes, là, se posent pour mon histoire personnelle et le génocide des Tutsis au Rwanda, mais qui, au-delà, se posent peut-être pour l'Afrique en général.
Et vous vous êtes déjà, vous le racontez dans votre texte, opposé au choix de certaines photos pour accompagner vos textes à vous ou des interviews dans la presse écrite. Quelles sont les photos qui ne vous conviennent pas, Beata Umubiei-Meres, par exemple ?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est un vrai problème de déontologie journalistique, c'est que ce qui s'est passé en 94, le génocide est commis pendant 3 mois. Ensuite, le Front patriotique rwandais qui va mettre fin au génocide, qui est constitué essentiellement de réfugiés tutsis qui ont fui les pogroms des années 50, 60, 70, arrive, met fin au génocide. Mais leur progression se fait en parallèlement avec les Hutus, dont une grande partie d'entre eux, pas tous, mais une grande partie d'entre eux vient de commettre le génocide, fuit au Zaïre, RDC maintenant, grâce d'ailleurs à l'opération turquoise française. Et il se passe une superposition, quelque chose d'assez incroyable, c'est que finalement, très peu de journalistes pendant le génocide, et là, dans les camps de réfugiés, plein de journalistes, plein d'humanitaires, tout le monde entier arrive là. Il se fait qu'il y a une épidémie de choléra qui commence dans ce camp-là, donc des morts. Et tout d'un coup, une autre histoire se raconte, et les images de ces réfugiés, des corps, des morts tués par le choléra, est présentée par les médias comme les victimes du génocide. C'est-à-dire qu'une partie des bourreaux et leurs familles sont présentées comme les victimes du crime qu'ils viennent de commettre. Et encore aujourd'hui, et je vais voir comment ça va se passer avec la commémoration des 30 ans cette année, mais on va avoir des sujets, par exemple, à la télévision, où on parle du génocide contre les Tutsis du Rwanda, et on vous montre des images qui sont celles des Hutus. Fuyant sur les routes allant au Zaïre ou des camps de réfugiés. Vous imaginez ce que ça peut signifier pour nous. Donc ça, c'est une chose. Donc j'appelle presque les différentes rédactions à faire un peu le point sur les images qu'ils diffusent.
Bien reçu.
Voilà. Et puis l'autre chose, c'est ce que j'aborde aussi dans le dernier chapitre de mon livre, où je fais appel notamment au travail de Suzanne Sontag sur la photographie, c'est qu'elles sont... Elle dit très justement, quand il y a eu le 11 septembre, il n'y a eu aucune image qui a été diffusée des victimes de l'attaque terroriste occidentaux. C'est comment on a, pendant des années, on s'est habitué à voir à profusion des images venant d'Afrique, de corps, de victimes.
Et c'est toujours le cas.
Et c'est toujours le cas. Et alors, c'est en train de changer aussi en Europe. Mais en tout cas, on ne montrait pas ces images-là quand c'était des victimes occidentales. Et ça pose aussi la question de quand on va me proposer de mettre, enfin souvent me propose pas d'ailleurs, il y a un article qui parle d'un de mes livres et on va mettre des photos d'ossuaires, des photos de restes humains de prises pendant les génocides contre les Tutsis du Rwanda, ça va être aussi une façon de dire mais en fait à quel moment est-ce que vous me demandez si ces images là moi je suis d'accord pour qu'elles soient diffusées. C'est presque un livre que j'ai envie d'emmener dans les écoles de journalisme, finalement.
Ça s'appelle Le Convoi, un récit indispensable sur des images manquantes, un récit marquant, qui était clairement un récit qui manquait. Merci pour ça, Beata Umubiei-Meres. Vous restez
Merci
avec
à
nous.
Vous.
À suivre les questionnements d'une femme face au mouvement du monde et de sa propre vie. Ça sera avec vous, Valérie Zenati. Et dans un instant, Blandine Rinkel écrit...
Une lettre à la fiction.
À tout de suite et beau samedi.
La première.
Dans quel monde on vit ? Pascal Claude.
Merci de nous suivre en direct sur La Première ou à tout moment en replay. C'est sympa de vous savoir là. Nos invités cette semaine sont les écrivaines Beata Umubiei-Meres et Valérie Zenati. Comment vivre par les temps qui courent ? C'est l'une des questions de votre nouveau roman, Valérie Zenati. Nous y venons juste après la lettre de Blandine Rinkel. C'est à vous, Blandine.
Chère fiction, ces derniers temps, dans les milieux culturels, ont amoindri. La chose n'est pas nouvelle, on se demande bien à quoi tu sers. On te dit mensongère, on argue que des personnages ce ne sont pas des vrais gens et que tu chercherais à nous duper, à nous manipuler, et pour quel résultat au fond. Te rendant parfois complice des fake news ou de l'apathie politique, on te fait à la fois des procès en intégrité et en utilité. Bref, fiction, on te brocarde. Alors, comme un fils dont on insulte la mère, j'ai envie de te défendre. Parce que tu m'as appris l'émancipation, parce que tu ne te crois pas unique au monde, et parce que parfois la joie. Au mensonge que tu parais représenter, on dit préférer la vérité. Bien sûr. Mais laquelle ? Celle de la science, on sait où elle peut mener. Celle des faits, reste à voir comment ils sont utilisés. Alors ce serait quoi une histoire vraie de vraie qui n'emprunterait rien aussi à la construction imaginaire ? Depuis l'invention du langage, il semblerait que les sociétés ne se soient jamais déployées qu'à partir de mythes, de dieux, de récits fondateurs, révolutionnaires, d'ordre imaginaire en somme. Homo sapiens, au fond, c'est l'homme-fiction. La question serait plutôt de déterminer quel type de fiction on désire. Notre condition, c'est la fiction, à nous de la rendre intéressante, écrivait Nancy Houston en 2009. Notre condition, c'est la fiction, alors à nous de rendre les histoires qu'on se raconte plus exactes, plus justes, plus incisives à nos yeux, plus nocives aux normes et aux dominations, si l'on veut. Car bien sûr que les fictions nous dupent, mais on pourrait aussi dire qu'elles nous énergisent, qu'elles nous emportent, qu'elles nous dessillent, parfois. Si les films, les fables, le storytelling même sont voués à nous raconter des histoires, la question est donc de savoir lesquelles. Quelles histoires nous étouffent? Quelles autres désire-t-on? La revue Multitude proposait en 2012 un numéro sur ces contre-fictions politiques, arguant que l'époque est depuis 10 ou 20 ans écrasée sous la chape de plomb d'un prétendu réalisme politique et économique qui constitue la plus massive, la plus néfaste sans doute de nos fables actuelles. Alors plutôt que de se réclamer de la vérité contre la fiction, peut-être serait-il plus vivant de chercher à élaborer des histoires nouvelles, à travailler des langues renégates, plus vigoureuses que celles qui nous gouvernent. Et puis je pense aux manifestants de Hong Kong qui en 2019 se sont mobilisés par milliers pour leur indépendance en entonnant l'hymne à la volonté du peuple, issu de la comédie musicale de Claude-Michel Schoenberg, Les Misérables, elle-même adaptée du roman de Victor Hugo. Une fiction de fiction donc, à la fin mise au service d'une mobilisation politique massive qui finit par avoir gain de cause. Qui l'aurait cru ? Qui saura jamais ce qui sert les valeurs ou les idées auxquelles on croit ? Un essai ou une conversation ? Une action directe ou un roman ? Qui pour se targuer de connaître par avance les bonnes et les mauvaises formes d'expression? L'écrivain Tanguy Viel, dans un petit livre contre la littérature politique qui vient de paraître aux éditions La Fabrique le mois dernier, écrit ne pas douter que la littérature a des vertus prescriptives, voire performatives, mais qu'il faut en accepter le caractère dilué, inqualifiable, indécidable. Oui, chère fiction, tes effets ne sont pas toujours immédiats et sur les réseaux, tu ne sers pas toujours directement les intérêts des influences politiques. Mais je crois que pourtant tu agis. En souterrain, passionnément, je crois que tu circules, et pour peu qu'on s'intéresse à toi, que tu sais nous modifier, nous réduire ou nous augmenter, nous faire perdre ou gagner en puissance, comme peuvent nous modifier, par ailleurs, les témoignages, les essais ou la poésie. Alors ne te laisse pas affaiblir, chère fiction, reste, va et surtout deviens. Je te suis, Blandine.
Merci beaucoup, Blandine, pour cette missive. En quelques mots, Beata Omoubieyi Mérès, vous lui dites quoi, vous, à la fiction? Vous qui, dans un premier temps, êtes restée, comme vous l'écrivez, retranchée dans le confort de la fiction avant d'écrire ce récit.
Oh, elle a été là beaucoup. Elle m'a beaucoup aidée, la fiction, à prendre du recul, à partir ailleurs, à être une autre le temps qu'il fallait pour me construire, oui. Et je la suis aussi.
Blandine, votre lettre, elle est à lire, à écouter et à partager via notre site lapremière.be. Et nous poursuivons avec vous, Valérie Zenati, avec ceci.
Dans quel monde on vit ?
I loved you in... La vidéo fait 4 minutes et 2 secondes et elle s'arrête ainsi. Vous aurez peut-être eu juste le temps de reconnaître la voix de Leonard Cohen. 4 minutes et 2 secondes captée à la fin de sa tournée européenne en 1972. Miraculeusement préservée, miraculeusement disponible à l'infini. Si l'infini est cette boucle qui relie le mystère et l'évidence. C'est ce que vous écrivez à Valérie Zenati dans Qui vit, votre nouveau roman. Et vous précisez la scène. La foule chante en chœur en hébreu. On a apporté la paix sur vous. Il prend le temps d'accueillir la ferveur que chacun lui envoie avec toujours ce sourire au bord de la timidité et de l'émerveillement sur le visage. Il joue quelques notes. On entend les premières paroles de « Hey, that's no way to say goodbye ». Mathilde, l'héroïne de votre roman, c'est une professeure d'histoire un peu désorientée. Elle l'a regardée de nombreuses fois cette vidéo. Et vous, honnêtement, Valérie Zenati ?
Oh, je l'ai regardé plusieurs fois, peut-être moins qu'elle, parce que Mathilde est un personnage de fiction. Mais je crois avoir regardé cette vidéo une douzaine de fois. Parce que peut-être que ce qu'il faut préciser, c'est que avant d'être sur scène pour chanter Hey That's No Way to Say Goodbye,
ouais, c'est ça, il quitte la scène, parce qu'il
n'est
pas tellement en forme et il dit si ça ne s'arrange pas, je vais arrêter et vous rembourser. Qu'est-ce qui lui arrive en fait ?
Alors, c'est bien plus que ne pas être en forme. Ce qu'il exprime là, dans ce moment-là, c'est qu'il se sent incapable d'être investi et présent dans ses chansons. Si c'était simplement qu'il n'était pas en forme, je crois que Mathilde n'aurait pas été fascinée par cette vidéo et peut-être même que le livre aurait pris une toute autre tournure. Ce qui se passe à ce moment précis et qu'elle comprend finalement, c'est une exigence de la part d'un artiste. Il se place là au cœur de ce qu'est peut-être l'être artistique qui se doit d'être dans une justesse ou dans une quête de justesse absolue et qui ne doit pas tricher. Mmh. Oui, c'est un moment de révélation.
Dans un documentaire en 1965, il dit aussi ceci : « Je suis inquiet quand je me lève le matin. Mon inquiétude est de savoir si je suis en état de grâce. L'état de grâce est une sorte d'équilibre qu'on éprouve en dépit du chaos qui nous entoure. Il ne s'agit pas d'avoir l'arrogance de vouloir résoudre le chaos et mettre le monde en ordre, mais c'est comme faire du ski, pouvoir s'échapper, pouvoir contourner la colline. » C'est aussi votre inquiétude, ça, Valérie Zenati ?
C'est clairement l'inquiétude de mon personnage. Personnage qui est né de ces sensations que j'ai moi-même intégrées depuis quasiment ma naissance, finalement. Et qui sont celles d'un écart infranchissable entre nos vies personnelles, propres, intimes, quotidiennes, reliées à un lieu, à des êtres et à notre corps, et le reste du monde. Là, tout à l'heure, j'écoutais Beata Umubiei-Meres parler avec une résonance qui était très forte. Je reviendrai très précisément au mois de juin 1994, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, comme je l'évoquais en tout début d'émission...
Vous avez été journaliste.
J'étais une jeune journaliste d'une radio juive parisienne. Et que j'ai le souvenir très précis de l'endroit où je me trouvais le 6 juin 1994, deux semaines avant la date du convoi. Le 6 juin, je couvrais le 50e anniversaire du débarquement en Normandie. Et j'étais sur les plages normandes avec plus de 8000 journalistes du monde entier qui étaient là pour couvrir l'événement, les commémorations du 50e anniversaire, avec Bill Clinton, qui est James Baker, François Mitterrand, avec un nombre de chefs d'État absolument impressionnant. Et donc, en écoutant Beata, je suis revenue à ce moment-là, et en me disant, oui, il y avait 8000 journalistes qui étaient là pour rendre compte et scruter deux cérémonies officielles qui parlaient d'un événement important qui se déroulait 50 ans auparavant. Et en même temps, et à ce moment-là précis, le génocide des Tutsis se déroulait. Et je me souviens très bien de ce que dit Beata, qu'il y avait cette confusion entre les Tutsis et les Hutus. La guerre, dans une partie du monde, c'est aussi ce moment où, en réalité, on découvre des peuples, des langues, des noms de villes, des réalités où on a l'impression de les découvrir, parce qu'en réalité, on ne les découvre pas. Et tout à coup, ils n'existent pour nous que par ces mots qu'on se dépêche d'intégrer, qu'on se dépêche d'analyser, alors qu'en réalité, il y a toute une histoire et des histoires brisées et qui sont, comme le dit Beata, presque inaudibles, tant la violence est grande. Et donc, je raconte tout ça pour dire que ça, ce sont des choses que moi-même, j'ai vécu, mais mon personnage Mathilde est professeur d'histoire-géographie, contrairement à moi.
Même si vous avez fait des études d'histoire à l'Université de Jérusalem.
Oui, à l'Université hébraïque de Jérusalem, j'ai étudié un an l'histoire et les sciences politiques, mais pas suffisamment pour l'enseigner. Mais je dirais que Mathilde, c'est un personnage qui est né en 2020 et qui s'est emparé, en quelque sorte, de cette part de moi pour pousser à l'extrême cette interrogation qui est comment vivre et comment, lorsqu'on a la chance de se réveiller le matin en France notamment, dans un pays en paix, comment vivre sa vie qui est non menacée sur le moment en ayant conscience des autres vies menacées ailleurs dans le monde.
Si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Hein.
Alors, je ne sais pas si, voilà, si vous, vous avez eu le sentiment qu'elle était présente dans le livre.
Il y a des indices, évidemment, il y a des morceaux de réponses, mais il y a encore et toujours des points d'interrogation qui demeurent.
Exactement. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous imaginez que si j'avais osé prétendre répondre à cette question dans le livre, je ne l'aurais pas publié parce que j'aurais eu la conscience immédiate que c'est un leurre et que, bien entendu, qu'il n'y a pas qu'une réponse. C'est pour ça que les indices sont là. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse qu'il n'y a pas de chemin possible, malgré tout, à l'échelle individuelle, pour affronter ces questions.
Mathilde, elle va décider de partir seule, sans sa fille, sans son compagnon. C'est en Israël qu'elle va atterrir. Mathilde, qui était venue une fois dans l'enfance à 6 ans, et elle se souvient notamment, je cite, d'une citronnade et d'un brick à l'œuf dégusté sur une place tendue de lampions à Gaza. C'est très troublant, évidemment, de lire ça aujourd'hui, Valérie Zenati.
Oui, je partage avec Mathilde ces deux souvenirs d'enfance. Le premier, c'est celui de la guerre de Kippour en 1973. Et le deuxième, c'est ce voyage que j'ai effectué enfant, pas dans les mêmes conditions, mais à 6 ans, avec ma mère, ma sœur et ma grand-mère. Et en effet, nous étions allés avec de la famille de ma grand-mère dans le sud d'Israël, dans cette partie d'Israël qui a été martyrisée le 7 octobre. Et je me souviens d'un cousin de ma grand-mère qui avait dit si on allait à Gaza, prendre un verre, parce que c'était tout à côté, à quelques kilomètres de là. Alors, j'étais enfant. À ce moment-là, Gaza ne résonnait absolument pas. Comme le nom de Gaza résonne depuis quelques décennies.
Et en particulier depuis le 7 octobre 2023.
En particulier, je ne sais pas, parce qu'en réalité, voilà, là aussi, je crois que pour le coup, on est quand même très informés au sujet de ce qui se passe entre Israël et Gaza, et beaucoup plus que sur bien des parties du monde. J'entendais hier matin également que, par exemple, la guerre au Yémen a fait 400 000 morts depuis 2014. Et j'ai vraiment le sentiment que ces 400 000 morts n'existent pas ici, en Europe, n'existent pour personne. Que personne ne serait capable de raconter une histoire, alors que malgré tout, on est capable de raconter des histoires sur cette partie du monde qui attire les regards, qui suscite beaucoup de compassion parfois, mais aussi beaucoup de pulsions très violentes, beaucoup de manipulations très perverses, et de difficultés à comprendre ce qui s'y joue malgré tout pour les êtres, quand on les détache des clichés qui se rattachent d'un côté comme de l'autre.
L'un des personnages de votre roman dit « Tout ce qui se passe ici depuis 30 ans m'évoque des plaques tectoniques où Dieu rencontre le populisme, qui rencontre la frustration, qui engendre la guerre. On sait moins que jamais vers quoi on avance, mais l'a-t-on jamais su ?» C'est là une analyse qui nous permet d'un peu éclairer ce qui se joue aujourd'hui, cette guerre actuelle entre Israël et le Hamas. Valérie Zenati.
Je crois qu'en écrivant ce livre, j'ai été aimantée, comme l'est mon personnage, par Israël et par le Proche-Orient. On dit désorienté. Désorienté, ça veut dire aussi chercher son Orient. Et Mathilde, d'une certaine manière, en cherchant le sens de l'histoire, se trouve, sans pouvoir l'expliquer, aimantée vers l'Orient. Et en effet, à quelques mois près, je crois que ce mouvement qui l'emmenait là-bas pour dire « il y a peut-être quelque chose qui se passe là-bas qui irradie bien au-delà des frontières », ce mouvement-là était une intuition qui n'était pas une intuition d'ordre irrationnel, mais au contraire une observation, peut-être de ma part, du présent, de tout ce qui se passait là-bas, sans qu'on en parle, sans qu'on s'en fasse l'écho. Il y a eu toute l'année dernière, pendant la réforme judiciaire initiée par le gouvernement de Netanyahou et la droite et l'extrême droite israélienne, il y a eu un mouvement de contestation de la part des démocrates israéliens absolument extraordinaire, absolument historique. Et moi, j'ai été extrêmement frappée à ce moment-là par le manque d'intérêt que l'Europe avait pour ces manifestants, pour leur conscience politique, pour leur courage politique. J'ai été frappée par ça parce que je me disais, mais finalement, c'est étrange. Israël n'intéresse que lorsqu'il y a la guerre. Or, les mouvements politiques à l'œuvre dans cet État, qui est une démocratie extrêmement vacillante, me semblaient nous parler à tous. Je rejoins les mots de la sociologue Eva Illouz sur ces questions. ce qui se passe lorsqu'une démocratie vacille concerne toutes les démocraties, parce que les populistes s'inspirent les uns des autres. Et donc là, ce roman qui raconte bien autre chose et qui essaie de faire la part à la poésie dans un monde où elle existe, mais où ces conditions sont menacées, ce roman a rejoint quelque chose de l'histoire à l'œuvre, mais que les gens ne veulent pas toujours voir, parce qu'on ne peut pas porter ses regards partout à la fois.
Partout et tout le temps. On retiendra quand même que Mathilde dit qu'il y a une autre manière de vivre sous les étoiles. C'est dans votre nouveau roman, Valérie Zenati. Ça s'appelle « Qui vive ?», un roman qui rend attentif aux instants qui composent nos vies. Vous restez avec nous.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Fragment de frisson à présent avec les sons frissons de nos invités. Beata Oumoubié-Imérès, vous frissonnez quand vous entendez ça. C'est une vieille chanson rwandaise apparemment.
Oui, c'est une chanson qui passait à la radio et je sais qu'il y a pas mal de Rwandaises et de Rwandais en Belgique. Niwa harawa chitse kwicumu bimumva itepe fakakarere mundakabatuye.
C'est-à-dire?
Eh bien, je disais que s'il y avait des rescapés qui étaient en train d'écouter cette chanson en ce moment sur la RTBF, elle était pour eux aussi.
Et vous, forcément, Valérie Zenati, vous avez choisi ceci. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end. Dance me to the end of love. Leonard Cohen, bien sûr. Pourquoi cette chanson-là en particulier, en deux mots, Valérie Zenati?
Une des plus belles chansons au monde, parce que l'amour et les conditions de l'amour sont évidemment la seule chose qui peut nous permettre de tenir debout
et, oui.
et de pouvoir vivre cette expérience de la vie avec aussi de la beauté et de la lumière.
Et avant de se quitter, nos choix culturels pour ce week-end, Blandine Rinkel d'abord, que nous conseillez-vous?
Oh là là, moi j'ai plus envie de parler, j'ai envie d'écouter. Mais je vais quand même vous conseiller quelque chose. Comme j'ai écrit à la fiction, je vais vous conseiller deux livres de non-fiction qui sont parus aux éditions du Sous-Sol dans une nouvelle collection. Celui de Jeannette Malcolm, Le journaliste et l'assassin, un classique, et celui de Ted Conover, Au fil du reste. Deux classiques de non-fiction qui sont géniaux et la collection est très belle.
Beata Oumoubié-Imérès.
Alors moi, c'est un livre qui est paru, je crois, il y a 2 mois, dans la collection Babel chez Actes Sud. C'est de l'écrivain hongrois Imre Kertész et ça s'appelle L'Holocauste comme culture et c'est traduit par, c'est important de dire les traducteurs, Nathalie Zremba et son mari. Je suis désolée, je ne me rappelle pas de leur nom, mais voilà, ils sont sur la couverture et ça c'est... important.
Alors moi j'ajoute que la traduction c'était Anatole Ponce-Renault pour Ted Conover et Lazare Bitourne pour Jeannette Malcolm, c'était dans mes notes.
Valérie Zenati.
Alors moi ce serait une pièce de théâtre Fantasio qui est actuellement en Suisse, à Genève, au Théâtre du Carouge, que j'ai
d'accord.
eu la possibilité de voir la semaine dernière, mise en scène par Laurent Natrella. Et Fantasio c'est cette pièce de jeunesse de Musset qui reprend aussi la question d'une jeunesse qui cherche à savoir comment elle peut vivre quand les désillusions et les croyances sont tombées et qui fait face au pouvoir, à la guerre, à l'amour. C'est magnifique, c'est vivant, c'est grave, c'est profond et c'est là aussi rempli de lumière. Donc voilà, c'est ce spectacle, j'espère que vous le verrez peut-être un jour en Belgique.
Et de mon côté, je vous recommande ce roman que j'évoquais en ouverture, Du même bois de Marion Fayol, un livre sur le monde agricole qui m'a beaucoup ému. Il nous fait percevoir et ressentir les manies, les mentalités, les réalités de ces gens qu'on appelle les agriculteurs ou les paysans, et mine de rien, c'est pas sans lien avec l'actualité. À lire aussi les livres de nos invités, Le convoi de Beata Oumoubié-Imérès et Qui vive de Valérie Zenati. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci.
Et merci à toi, Blandine.
Merci.
À bien vite.
La première.
Le samedi de 10h à 11h.
Dans quel monde on vit ?
J'espère que vous avez aimé ce numéro de Dans quel monde on vit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux, ça permettra encore plus d'oreilles de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.